Et première invitée des matins du samedi, un homme de théâtre qui aime la tragédie et le lyrisme, les femmes et le soleil, l'Orient et l'Occident, même si aujourd'hui il lui arrive comme à d'autres de se sentir malheureux et en colère face à l'évolution des rapports entre les cultures de chacun. Aussi élégant et noble sur scène que dans la vie, sur les planches quand il joue que derrière quand il écrit et met en scène, il nous propose depuis mercredi et jusqu'à la fin du mois d'octobre un diptyque théâtral qui a au moins la force et la vertu de nous redonner du baume au cœur. Dans son langage, cela s'appelle le théâtre du soleil. Bonjour Simon Abkarian.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission matinale du samedi parce que vous étiez sur la scène hier soir jusqu'à tard. Vous y serez cet après-midi pour le long marathon du diptyque puisque vous allez jouer l'intégrale. Donc merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On entendait à l'instant l'esprit manouche dans la musique de Thomas Dutronc. Ça vous plaît ce genre de musique?
Je ne me suis pas trompée. J'adore le jazz manouche.
Et Ingmar Bergman?
J'adore Ingmar Bergman.
D'accord,
et donc je trouve que le septième saut est un très beau film. Les forains aussi. C'est les forains, non, ça
ouais, bien sûr. Il y en a une quarantaine qui vont être, qui vont
très
ressortir d'ailleurs au cinéma.
Très, très grand cinéaste. Très grand cinéaste.
On retrouve d'ailleurs dans, entre ces deux références que sont d'abord la musique de Thomas Dutronc, même si c'est effectivement deux références un peu grand écart, et Ingmar Bergman, on retrouve d'une certaine façon le même esprit que dans votre diptyque, celui que vous présentez depuis mercredi au Théâtre du Soleil, à la Cartoucherie. Les titres, c'est Le dernier jour du jeûne et L'envol des cigognes, parce que ce sont deux pièces sur la comédie humaine, et parsemé nécessairement de musiques qui sont entraînantes et qui réchauffent le cœur. Il faut toujours les deux. Il faut toujours de la tragicomédie.
Ah mais moi, sans, on peut pas. Pour moi, d'après moi, on peut pas raconter des choses graves sans qu'il y ait de la musique qui puisse donner de l'air à tout ça. La musique, ce sont les poumons un peu de la tragédie. S'il n'y a pas la musique, ça peut pas. Et puis bon, moi j'aime la musique, voilà. Quand j'écris, j'en écoute tout le temps. Et quand les gens me disent, moi j'aime pas la musique, et cela, ils me font un peu peur, quoi.
Vous les fuyez.
Ouais.
C'est la musique et c'est le rire aussi. Il faut du rire quand on parle de sujets graves, nécessairement.
Ben ouais,
il faut. On rit beaucoup dans vos
j'espère,
pièces.
J'espère.
Ah ben je vous le dis.
Oui, on rit. Enfin, c'est important pour moi de pratiquer les contraires, quoi. C'est parce que je pense que c'est une de mes lois que je me suis comme ça dite et que je m'impose un petit peu, c'est de dire je vais essayer de travailler l'obscurité pour parler de la lumière, du silence pour parler du son, etc. De l'arrêt pour parler du mouvement. Enfin, que l'arrêt est un mouvement en soi, en lui-même. Mais moi, j'aime bien travailler avec par les contraires. Donc, voilà.
Ces deux pièces ont-elles un lien? Sont-elles la suite de Pénélope au Pénélope?
En fait,
que vous aviez créé à 10 ans, si moi bien rien.
Oui, c'est la suite.
Donc, c'est une trilogie, c'est pas
mais
au moins.
Mais ça se passe avant.
C'est-à-dire ah oui, d'accord.
J'ai fait comme la guerre des étoiles.
Comme un préquel.
Voilà.
Et vous avez jamais eu envie de jouer les trois d'un coup? Là, vous jouez les deux.
Si, on a eu envie de faire
tant
les trois.
Tant qu'à faire un marathon, hein, là, on a déjà 8 heures de théâtre, donc.
Enfin, on a eu envie, mais on n'a pas trouvé l'argent pour le faire. Parce que ça coûtait cher de faire le troisième spectacle et on pouvait pas le faire. Donc, next time, la prochaine fois. Ce n'est que partie remise.
Ça fait une dizaine d'années, Simon Abkarian, que vous êtes mis à écrire. Alors sans doute vous écrivez-vous peut-être avant, je ne sais pas. Mais en tous les cas, que vos pièces sont montées, d'ailleurs souvent par vous, sont publiées également hein, chez Actes Sud. L'écriture est venue comment dans votre carrière d'acteur? À quel moment vous vous êtes dit, j'ai envie d'écrire, je vais m'y mettre maintenant? Et pour quelle raison?
Alors, il y a plein de raisons. D'abord parce que les histoires que j'ai envie de dire, il n'y a que moi qui peux les raconter, puisque c'est mes histoires. Et je trouve que la langue française est une très 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 belle langue, qu'il faut la redéployer tant qu'on peut, et la dire tant qu'on peut. Je trouve que c'est une belle langue. Et c'était à l'époque Sarkozy, et je me suis dit là, il est temps, il est temps de la dire justement cette langue, vu que les élites étaient en train de l'aplatir et de s'asseoir dessus, quoi. Parce que quand je voyais nos présidents et nos ministres la parler comme ils le faisaient, à l'époque Sarkozy, voilà, c'était une des raisons aussi, mais pas la raison majeure. J'avais juste envie de redonner de l'élégance à cette langue-là, quoi.
Entre intimité et politique, d'une certaine façon, ce qu'on
un
retrouve
peu,
d'ailleurs
ouais.
dans la pièce.
Ouais.
Des histoires qui sont les vôtres, dites-vous,
ouais.
et en même temps avec une quête de la langue collective, de ce que peut
oui.
être la belle langue collective.
Oui, parce que c'est une belle langue, la langue française. Quand on la parle bien et quand on prend le temps de l'étudier et de la dire. Bon, moi j'ai eu la chance d'aller chez les jésuites quand j'étais au Liban. Et je n'ai pas pu continuer mes études à l'école publique en France parce que j'étais un peu déstabilisé après, voilà, quand je suis arrivé. Je comprenais pas très bien comment ça marchait. Du coup, j'ai arrêté l'école. J'ai pas été jusqu'au bac. Enfin, je me suis arrêté avant. Et pour diverses raisons, parce qu'il fallait qu'on travaille en même temps, voilà, que quand, pendant ma scolarité. Donc, j'ai pas continué. Mais c'est vrai que le cadre dans lequel je vivais au Liban, à l'école, c'était un cadre idyllique. Il y avait des arbres, il y avait, bon, on n'était que garçons. Il y avait un mur, et puis de l'autre côté, à l'école des bonnes sœurs, il y avait les filles. Mais bon, ça nous a appris à grimper aux arbres pour voir les filles.
Ça vous a appris à grimper aux arbres, ça vous a aussi peut-être appris, Simon Abkarian, à faire tout par vous-même, parce qu'en l'occurrence, là, vous êtes acteur, vous êtes auteur, vous êtes aussi metteur en scène. Il n'a jamais été question de les faire monter par quelqu'un d'autre, ces pièces ?
Ben non, je les écrivais pour que moi, je les monte. Après, si dans quelques années, il y a une fille ou un garçon qui a envie de le monter, grand bien lui fasse, et ça me fera plaisir et honneur, mais non, je l'ai écrit pour que moi, je les monte, et avec les gens avec qui je voulais le faire, quoi. C'était ça le but. Et ça reste ça le but quand j'écris.
8 heures de théâtre, je disais, c'est un marathon. Ça ressemble à des pièces d'Ariane Nouchkine. On est d'ailleurs chez elle au Théâtre du Soleil. Ouais. Vous avez très longtemps travaillé avec Ariane Nouchkine.
8 ans, ouais.
Vous lui devez beaucoup de choses, on y reviendra. Ouais. Mais vous partagez cette même conception qu'elle a, Ariane Nouchkine, du théâtre, c'est-à-dire ce partage d'une expérience sensible commune.
Ouais.
Donc il faut aussi du temps.
Il faut du temps et puis il faut, voilà, le rassemblement, ça demande du temps, ça demande de l'organisation, ça demande des espaces, ça demande de faire manger les gens, de les accueillir comme il se doit, de les faire manger comme il se doit, de leur donner à manger la nourriture, on va dire, de l'esprit, et de les nourrir dans tous les sens, tous les corps, et puis de les accompagner et jusqu'à ce que revienne le lendemain l'autre public qui sera là. Pour sa première fois, parce que nous, quand on joue 50 fois ou 100 fois ou 25 fois, c'est 25 fois, mais là, le public qui vient, c'est sa première fois. Donc nous, notre boulot à nous, notre travail à nous, et le sien, c'est là que j'ai appris ça, c'est de remettre à niveau la passion de ça, l'appétit de ça, et ne jamais laisser entrer le fait d'être blasé ou le fait d'être... Parce que c'est la décadence qui tout d'un coup s'installe très vite et ça tue le spectacle de l'intérieur. Donc j'ai appris ça aussi avec elle, c'est de redonner du de l'esprit jour après jour à notre quête, quoi.
Votre personnage dans le premier volet, le dernier jour du jeûne, ouais. Simon Abkarian, dit à un moment dans la pièce... en mieux, mais dit la solennité et le rituel, en quelque sorte, c'est sacré. C'est très important.
Ouais.
Vous pourriez le mettre dans votre bouche à vous, de Simon Abkarian,
cette phrase. Oui, bien sûr. Je pense que à partir du moment où vous organisez un espace et vous lui donnez une dimension qui est de l'ordre du sacré, parce que le sacré, nous, on le lit toujours à la religion.
À la religion.
Mais c'est pas vrai. Le sacré, c'est pas l'apanage de la religion. Le sacré existe bien avant le monothéisme et existera bien après. Donc, organiser un espace et tout d'un coup en faire un endroit où se pratique la verticalité, où se pratique une relation du temporel et du divin. Et je répète que le divin n'est pas seulement ce qu'on croit, parce que les dieux du théâtre existent.
C'est qui ? On les connaît pas, mais on...
Non,
les...
parfois ils apparaissent, parfois
on
ils...
y croit.
On y croit. Ben ouais, moi j'ai cette comment dire ? J'ai cette naïveté là, j'ai cette enfance là pour me dire tiens ce soir est-ce que les dieux seront propices à nous ? Voilà. Et c'est vrai que quand vous allez en Inde ou à Bali, ou etc., tout le théâtre qui est dansé, chanté et joué est lié à ça, est lié souvent au dieu et à la nature, parce que ça se joue en plein air. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on se réinvente des histoires comme ça pour pouvoir se dire, tiens, ce soir, on va faire ça. Mais c'est jamais, comment dire, blasé, c'est jamais prosaïque. Moi, j'aime pas tellement ça.
Vous préférez le lyrisme ?
Ouais, de loin. De loin.
Accorde à mes filles le plaisir du corps et la joie de l'esprit. Puisse l'amour faire son nid dans chacun de leurs cœurs innocents. Tu pries, tu causes, tu chantes, mais y a personne là-haut. La folle, c'est moi pourtant. entends. Ta sœur, elle est où?
Où veux-tu qu'elle soit? Elle est dans son délire de pucelle mystique.
Tu peux pas comprendre le mystère qui me hante?
Quel besoin de comprendre? Cette histoire de jeûne, c'est des couillonnades. Des entourloupes pour dompter le démon qui danse dans le ventre des filles.
Qu'est-ce que je peux pas voir? T'attrapes un moineau, tu le peins en jaune et tu me le vends comme si c'était un canari? Et tu crois que je vais rien voir?
Mais qu'est-ce que tu crois? Je crois que j'ai pas envie de mordre à pleines dents dans le fruit du plaisir. J'en meurs! J'en crève d'envie! Mais je me donnerai pas au premier chien qui passe.
Celui que j'attends est en train de boire avec papa.
Qui? Le géant, là?
Lui. Dès qu'il est entré, mon cœur s'est emballé. Et je me suis mise à mouiller.
Extraordinaires acteurs également avec vous, une grande troupe, je sais pas, je les ai pas comptés, mais vous êtes très nombreux hein, sur la scène.
Si on est 16, 16,
16 ouais. 8 femmes et 8 ouais, hommes, ouais, hein, c'est à peu ouais, près ouais, réparti ouais. Comme ça. On entendait là dans ce teaser, comme ça qu'on dit, le mélange aussi là, non seulement de tragédie et de comédie, mais on va y venir, mais aussi de lyrisme, puisqu'on était sur le lyrisme, et de trivialité, de langage cru, de langage de la rue, de langage du quotidien, et des envolées poétiques de chacun. Ça aussi, vous y teniez? Ces deux jambes-là doivent être dans une pièce
ouais.
de théâtre?
Ouais. Mais j'ai grandi en fait comme ça. Chez moi, c'était ça, c'est-à-dire que mon père, c'est quelqu'un qui disait beaucoup, beaucoup de gros mots. Et c'était quelqu'un aussi qui pouvait tenir des propos très très poétiques et très lyriques et ses amis aussi et la famille aussi, c'est pas que mon père. C'est-à-dire que chez nous l'insulte était bannie voire proscrite mais parce qu'elle était dite. Et c'était pas quelque chose qu'on n'entendait pas parce que parfois il y a des gens à qui il faut dire toi t'es une merde. Comme ça il a pas d'échappatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois il dit non mais il a voulu dire ça. Non, là quand on dit toi t'es une merde, lui il peut pas dire il a voulu dire si ou les deux si. C'est ça autre chose. Donc c'est ça aussi parce que les insultes elles sont dites aussi et c'est pas seulement des insultes va te faire ceci, va te faire cela, c'est pas ça. C'est il y a des insultes qui sont extrêmement construites. Il y avait même des concours d'insultes dans mon quartier. Donc c'est dire, c'est pas rien. Une insulte, c'est pas juste proférer une insulte à l'encontre de quelqu'un du membre de votre famille.
Parce qu'il s'agit quand même bien là dans vos deux pièces d'une saga familiale. C'est une épopée familiale. Ça part d'une famille. On est à nouveau dans l'intime hein, d'une famille, dans un quartier. C'est aussi dans un quartier. On ne sait pas où, mais on suppose que c'est du côté de la Méditerranée.
Ouais.
Géographie imaginaire. Hein. Liberté du théâtre.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est la famille. Extraordinaire rapport familial entre Théos, que vous jouez, et ses filles, entre une autre femme qui s'appelle Vava et son fils, qui sont drôles, qui sont justes, qui sont tendres, inspirés de faits réels, là aussi, de ce que vous avez vécu, puis de ce que vous avez emmagasiné au fur et à mesure des années.
Oui, parce que moi, quand je suis allé à Liban, j'avais 9 ans, je suis arrivé, j'avais jamais vu la mer, j'avais jamais vu un palmier, j'avais... Et je suis arrivé là-dedans et tout le monde parlait fort, tout le monde savait tout de tout le monde parce que j'ai très vite appris, par exemple, que quand vous alliez chez l'épicier, vous appreniez des choses sur votre famille que vous appreniez pas à la maison. Donc au bout de la rue, les gens ils jasaient tellement, ils parlaient tellement, ils savent tout. En Algérie, c'est vraiment la même chose, ou à Marseille, c'est la même chose à une certaine époque. Je sais plus encore si à Marseille ça se pratique, mais dans toutes les villes du sud, la vie se passe aussi dans la rue. Et on entend ce qui se passe dans les maisons. Après, il y a des choses qu'on n'entend pas du tout. Par exemple, ce que font les parents la nuit, on les entend pas. Mais quand ils s'insultent, ils toussent, ils écoutent de la musique, ou ils chantent, ou ils dansent, vous les entendez, bien sûr. Tout le monde entendait tout le monde, et tout le monde voyait tout le monde. Le linge, quand ils montaient, on savait ce qu'ils faisaient à manger. Quand c'était Pâques, par exemple, ma grand-mère, on n'avait pas d'argent, ou parce qu'elle était un peu radine, ma grand-mère, elle mouillait les plateaux, elle les mettait au soleil, comme si elle avait fait des gâteaux, mais elle les avait pas fait les gâteaux. Mais sauf que les plateaux étaient au soleil.
Timo Corian, c'est aussi un monde, puisque vous parlez de votre grand-mère, mais c'est aussi un monde que vous mettez sur scène, qui est régi par les hommes, où les femmes se battent pour exister. Et elles ont un pouvoir, les femmes, c'est la parole.
Oui.
Et d'ailleurs, quand elles se parlent, quand elles parlent entre elles, plus exactement, il est souvent question de leur corps, de sexualité, et dans un langage cru, là où elles peuvent y aller. Ça aussi, c'est inspiré d'un monde ou d'une culture d'où vous venez.
Ça, c'est aussi imaginé, mais aussi quand j'étais petit, je voyais les femmes se réunir chez moi, ou chez mes tantes, ou chez mes autres tantes. Quand ça se réunissait, ça parlait, et moi j'avais 7 ans, et de temps en temps, il y en a une qui levait la tête et disait « Sors ». Parce que la discussion avait un peu vrillé et moi j'avais entendu ce qu'il fallait pas donc, mais c'était le sort, il venait juste au moment où on disait bon ça y est, il en a assez appris, maintenant il faut qu'il sorte. Mais elle savait très bien que j'étais là quand elle parlait de leurs histoires de cul ou de voilà ou leur relation amoureuse. Elle savait très bien qu'on était là à écouter avec des grandes oreilles. Et puis au moment opportun, elle disait « Sors ». Et je sortais. Et on sortait avec mes cousins. Mais c'est une éducation qui se faisait comme ça, sans en avoir l'air, sans être instauré ou presque, on va dire, officiel ou légitime. C'était une éducation qui se faisait comme ça, tout doucement, tendrement, espièglement.
Elles ont un rôle fondamental dans cette pièce, d'ailleurs, hein, ouais. Les femmes. Elles disent la vérité du monde. Par exemple, Nouritsa, qui est jouée par Ariane Ascaride. Nouritsa dit à un moment « Regarde là-haut, derrière son attelage céleste, le jour se traîne comme un jeune écolier qui rechigne à se lever. Prostré dans l'amphithéâtre du monde, les hommes attendent l'avènement du dieu savoir qui viendrait les sauver d'eux-mêmes. Pourtant, regarde ma fille, il brille au-dessus de nos têtes, le dieu de tous les dieux. Mais nous ne le voyons pas, l'homme est occupé à distraire le démon de son angoisse en étudiant. En étudiant quoi ? À faire la guerre et du profit. Où est-il le progrès à venir si on n'apprend pas à partager ? Si on en est encore à chanter, c'est à moi, c'est à toi, je te tue, tu me tues. Assis au fond d'une salle de classe bondée de sa propre chair, seul le cancre est heureux. Il rit de ce qu'il ignore, il rit de ce qu'il sait, mais il est heureux le cancre. C'est ça la vraie joie. Fais-en autant, ne t'occupe pas du reste. Le reste, le monde s'en fiche. Elles ont pitié, elles aident les hommes à se révéler, elles détruisent les faux-semblants. Elles ont un rôle vraiment fondamental dans votre pièce.
Ouais, dans ma vie aussi.
C'est ça peut-être aussi.
Ouais. Et aussi, c'est-à-dire que pourquoi j'ai écrit des textes comme ça pour les filles, c'était que bon, depuis 3000 ans de monothéisme, on va dire, d'histoire patriarcale, on a confisqué, comment dire, la parole du temporel au divin, on l'a confisqué aux femmes. C'est-à-dire les intercesseurs entre le temporel et le divin sont des hommes, en général, au système capillaire bien fourni. Et je me suis dit, pourquoi ce serait pas les femmes qui, de nouveau, parce que ça a existé, les femmes qui officiaient et qui enseignaient et qui ouvraient la voie, pourquoi ce serait pas de nouveau elles qui tout d'un coup s'empareraient? Parce que quand on donne un rôle à une femme comme ça, on écrit, souvent vous lisez dans les, c'est quelqu'un, c'est subissant qu'elle agit, et c'est que de l'horizontalité, c'est que du temporel, c'est que du concret, c'est que, il n'y a pas d'envol chez les femmes, il y a l'esprit, il n'y a pas de spirituel. Moi, j'avais envie que ces femmes-là soient aussi spirituelles qu'un homme. Il n'y a pas un esprit masculin, un esprit féminin. Il y a des esprits qui sont capables de parler à Dieu ou pas, point barre. Pour moi, le reste, je m'en fiche complètement, quoi. Et le jour où dans les églises, on verra, ou dans les mosquées, ou dans les synagogues, on verra des femmes qui officient, je pense que le peuple des croyants aura fait un grand pas.
Dis-moi, Abkarian, c'est quoi ce jeûne qui est une couillonnade dans ce qu'on entendait tout à l'heure? C'est quoi le dernier jour du jeûne? C'est quoi cette tradition du jeûne?
Alors ça, c'était un jeûne que faisaient les filles arméniennes, chrétiennes, orthodoxes, donc à l'époque de Pâques. Et puis elles faisaient un jeûne, mais sans rien, c'est-à-dire sans eau, sans rien. Il ne durait pas 7 jours, il en durait 3. Et au bout du troisième jour, leur futur époux était censé apparaître dans leur rêve. Donc ça aussi, c'est une espèce de comme ça de torture patriarcale imposée voilà aux filles pour leur dire c'est toi qui dois et pourquoi c'est pas l'homme qui doit jeûner pour rêver de sa femme. Donc c'est de ça que je parle et c'est de là qu'éclate le conflit entre les deux sœurs dont l'une
fait un jeûne en effet en attendant l'apparition
et l'autre veut s'émanciper et veut faire ce qu'elle veut de son corps avec qui elle veut quand elle veut étudier devenir avocate. C'est un rôle joué par Chloé Réjean magnifiquement et le rôle de la grande sœur c'est Océane Mozas qui joue celle qui tient le jeûne qui est aussi magnifique que Chloé.
Là, vous jouez, Simon Abkarian, un père de famille méditerranéen, mais en fait, on sait que vous êtes capable de tout jouer. Vous avez joué Tony le Dingue dans une série sur le grand banditisme. Mmh. Vous avez joué le résistant Misak Manoukian. Vous avez joué un grec méchant. Vous avez joué un époux israélien orthodoxe. Vous avez même joué l'opposant marocain Ben Barka dans un film et son bourreau, le général Oufkir, dans un autre. Qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez interpréter des personnages qui sont proches de vous ou qui sont loin de vous ?
Oh, loin, je dirais. Pour répondre vite, mais j'aime jouer des personnages qui sont bien écrits surtout.
Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On vous retrouve tout à l'heure dans 2 minutes juste pour entendre les titres de l'actualité. Restez avec nous. Simon Abkarian est notre invité ce matin. Simon Abkarian, on parlait du Théâtre du Soleil, où d'ailleurs vos pièces se jouent en ce moment même, à la Cartoucherie. On parlait du Théâtre du Soleil et d'Aria Mnouchkine, avec qui vous avez beaucoup travaillé, avec qui vous devez beaucoup, et en particulier peut-être cet amour pour la tragédie et la mythologie antique. Vous en avez écrit des pièces, Pénélope au Pénélope, que je citais tout à l'heure, mais aussi Ménélas Rebetiko, Rhapsodie, que vous aviez écrite également. Là, il y a des personnages, il y a un lyrisme, il y a un conteur, il y a beaucoup de choses de la tragédie antique. Est-ce que ça, c'est aussi un legs d'Aria Mnouchkine, ou est-ce que ça vient de plus loin?
Je crois que c'est les deux. Je crois que moi, j'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que quand on était au Théâtre du Soleil, Aria nous disait souvent il faut avoir lu l'Iliade, l'Odyssée, la Genèse. Et sinon, vous n'allez pas comprendre les pièces qui vont vous arriver, ou si vous allez au musée, vous n'allez pas comprendre les peintures. Enfin, voilà quoi. Je crois que c'est important de savoir d'où on vient, parce que c'est notre fond. Pardon.
Oui. Non, c'est pas ça. C'est que je vous écoutais parler, je me disais qu'il y a aussi beaucoup de résonance entre ce que vous mettez en scène dans vos pièces, oui, qui peut se ressembler aux Atrides, hein, parfois, oui, oui, dans ces rapports de violence et d'amour, de justement comme un monde tragique que vous mettez en scène.
En fait, c'est ce qu'il y a de bien avec la tragédie, c'est que ça nous dit là où il faut pas aller. Ça nous montre l'abîme, ça nous montre le précipice, ça nous montre le gouffre. Ils nous disent le fils ne doit pas tuer la mère. Ça, voilà. Quand Oreste tue Clytemnestre, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que parfois les gens ils disent ah, mais vous préconisez donc la vengeance personnelle. Non, on est en train de dire ce qu'il faut pas faire. On n'est pas en train de dire c'est ça qui est bien de faire. C'est ça, et le théâtre, c'est ça qui est bien, je trouve. C'est parce que ça, le théâtre, quand il est pratiqué d'une manière vraiment forte et consciente, il a une vertu. Il a une vertu. La comédie a sa vertu, la tragédie a sa vertu.
Écoutez peut-être la voix de Ariane Mnouchkine. Ouais. C'est une archivinade qui date de 1994. C'était sur France Culture au Mardi du Théâtre. Précisément, elle parle de ses vertus de la tragédie pour le spectateur que nous sommes.
Je pense qu'un public qui va voir une tragédie sait très bien qu'en allant voir la tragédie, il se donne un millionième de chance de plus de l'éviter.
Il y a un côté exorciste et catharsis, en tout cas.
Oui, pour j'allais dire, c'est ça la catharsis, exactement. Et oui, c'est ça la culture. C'est ça la catharsis, c'est ça la culture, c'est ça la civilisation, c'est ça la conscience. Et je crois que la beauté et le plaisir théâtral est fait de ça aussi. C'est-à-dire, on sait qu'on va au théâtre, et à la comédie, bien sûr, mais à la tragédie aussi, et peut-être encore plus, pour devenir plus grand, plus humain. Donc, pour connaître mieux le danger de la tragédie qui est présent et ô combien dans notre société, dans toutes les sociétés, et pour se donner les outils, justement, même inadéquates, mais les outils pour l'éviter, peut-être une fois, le lendemain, ou se dire, tiens, ce jour-là, je ne l'ai pas évité, je vais dorénavant l'éviter, parce que je comprends, parce que je prends du plaisir à la représentation de la tragédie, et donc je suis mieux armée.
Simon Abkarian, est-ce que ça veut dire qu'il y a une responsabilité de l'artiste, du coup?
Ah oui. Oui, énorme. Et ceux qui me disent, moi, je fais pas du théâtre engagé ou du cinéma engagé, ceux qui disent, je fais pas du théâtre engagé ou du cinéma engagé, moi, ça me fait doucement rire. Tout est engagé. Même quand on fait un film comme Rambo, le fait de dire Rambo se fait justice lui-même, c'est déjà un discours politique. Tout est politique. Donc, bien sûr que la responsabilité, elle est énorme. Si on se dit qu'on fait ça pas seulement comme un métier ou se dire pour en faire une carrière, mais de dire aussi, tiens, de se poser la question, à quoi ça sert? Est-ce que, à quoi moi je sers en tant qu'acteur ou actrice? À quoi je, là où je me place et comment je fais du bien aux autres? Parce que le gars qui fait de l'eau, il le met en bouteille, il dit, tiens, il va épancher la soif des gens, il va leur faire à boire. À quoi moi, à quel endroit j'interviens pour voir éventuellement, faire du bien aux gens? À quel endroit? À leur esprit, à leur âme? Bien sûr que c'est une responsabilité. Par exemple, quelqu'un qui va sur scène, que ce soit n'importe quel endroit du monde, il va pas aller sur scène pour mal jouer. On va tous essayer de bien jouer, qu'on soit en Afrique, en Chine, en France ou en Amérique latine. Toutes les actrices du monde entier, tous les acteurs du monde entier vont se mettre leurs pieds sur scène en se disant « je vais essayer d'être juste ». Donc il y a tout le monde, il y a cette chose-là. Maintenant, il y a des gens qui se dédouanent de ça et qui pratiquent le théâtre ou le cinéma comme qui est du cinéma et du théâtre libéral, quoi. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est de l'oseille, c'est tout.
Mais c'est pas votre conception de l'art, et c'est pas votre conception
non,
du théâtre.
Non, ça n'est pas. Et j'ai rien contre le fait que les gens fassent de l'argent, pourvu qu'ils y réfléchissent pendant qu'ils sont de faire leur œuvre. Et si ça ramène de l'argent, ben, grand bien leur fasse.
Merci Simon Abkarian d'être venu ce matin. Le dernier jour du jeûne et l'envol des cigognes, c'est donc au Théâtre du Soleil, à la Cartoucherie, jusqu'au 14 octobre. C'est à Paris, dans le 12e, quelque part vers le jardin de le bois de Vincennes, pas le jardin d'ailleurs, c'est vraiment un bois.
Le parc notre floral.
Exactement, voilà, c'est à peu près par là. Les deux se jouent en alternance jusqu'au 14 octobre, mais cet après-midi, donc, c'est l'intégrale. Bon à vent à vous.
Bah,
on se termine avec une chanson que vous avez choisie.
Ouais.
Pauline Jones, Burning House.
Ouais. Has grown wild, now it's burning, that house from inside. My fire won't go cold. My fire won't go cold. No, my fire won't go cold. It'll keep on burning high since you left it alone. Come back, baby, I need you to tame the fire that devours the house and my heart. It's burning for you, but it's burning me down. It's burning since you're not around. My fire won't grow cold. No, my fire.